SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/French.
Nous rendons hommage aux propriétaires traditionnels de la terre à partir de laquelle SBS French diffuse. Le peuple Wurundjeri de la nation Kulin, ainsi que leurs aînés passés et présents. Nous rendons hommage également à toutes les tribus et clans aborigènes, ainsi que les insulaires du détroit Torres auxquels nous diffusons.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Il est 13h sur SBS French. Mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le samedi 11 mai 2024 et vous écoutez votre programme en français. Nous vous en remercions. Je m'appelle Marianne Murat. Nous allons passer une heure ensemble. Et comme tous les samedis, on commence avec la rétrospective de la semaine. Pour ce qui est des dernières actualités, on vous invite à vous rendre sur le site internet sbs.com.au/news. Et allez, on l'a dit, on commence avec la rétrospective. Aujourd'hui, dans la rétrospective, on fait un bond de 37 ans en arrière et on remonte au 11 mai 1987, lorsque le procès de Klaus Barbie s'ouvrait. Valentine Saboureau nous emmène sur les traces de l'ancien chef de la Gestapo, premier homme à avoir été poursuivi pour crime contre l'humanité. Il a été l'objet d'un procès exceptionnel à bien des égards. Récit avec les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel et les mots du prix Nobel de la paix, Elie Wiesel, en ouverture.
Je ne crois pas à la vengeance, mais je crois à la justice. Je crois à la justice dans le cadre de la mémoire. Une justice sans mémoire n'est pas une justice.
C'est l'histoire d'une journée particulière, ou plutôt d'une journée historique. Le 11 mai 1987 s'ouvre en effet à Lyon le procès hors norme de Klaus Barbie, dit le boucher de Lyon. Poursuivi pour crime contre l'humanité, l'ancien nazi est accueilli dans un tribunal spécialement aménagé pour pouvoir accueillir une audience pléthorique qui inclut ce jour-là 800 journalistes du monde entier. Le prévenu doit y faire face à 113 associations qui se sont portées civiles, la justice étant volontairement placée entre les mains d'un jury populaire, assisté de magistrats ordinaires. Né en 1913 près de Bonn, Nikolaus Barbie adhère à 20 ans aux jeunesses hitlériennes. À 22, il rejoint la SS avant de travailler dans les services de sécurité puis de renseignement nazi. Formé à l'interrogatoire, il va exceller dans ce domaine grâce à la guerre qui met à profit ses sinistres talents. En 1940, il est muté aux Pays-Bas avant de devenir chef de la Gestapo en France.
Ancien chef de la Gestapo de Lyon, il a ordonné la déportation vers les camps de la mort de 115 000 Français, des trains entiers de Juifs et de résistants. En juin 1943, avec la complicité de certains Français, il est vrai, il a arrêté à Caluire Jean Moulin, le président du Conseil national de la Résistance. Jean Moulin, torturé, ne révélera rien avant de mourir dans le wagon qui le conduisait à la gare de triage de Drancy.
1944, il fuit Lyon pour l'Allemagne où il continue de se battre. Après la guerre, bien qu'identifié par les Américains, il n'est pas capturé, mais recruté par le Counter-Intelligence Corps qui traque les communistes. Il deviendra alors informateur avant d'être exfiltré vers la Bolivie en 1951. Il y prospère en toute tranquillité sous le nom d'Altman avant d'être localisé en 1971 par Serge et Beat Klarsfeld. Il faudra ensuite attendre le 5 février 1983 pour qu'il soit extradé. Cette dernière réagit à l'époque sur le procès à venir.
Dans les interviews qu'il avait données à la télévision, à la radio, aux journaux, il s'est félicité d'être toujours qu'il s'est tenu Hitler, il n'a pas changé d'idée. Je crois que c'est une bonne chose que cet homme-là soit traduit devant la justice.
Klaus Barbie, cependant, a déjà été condamné en France. C'était à la peine de mort par contumace en 1952 et 1953, mais il y a prescription. C'est donc pour crime contre l'humanité qu'il sera poursuivi, sachant que trois faits sont retenus contre lui. La rafle de l'Union Générale des Israélites de France, UGIF, rue Sainte-Catherine à Lyon, le 9 février 1943, la rafle des enfants d'Izieux, le 6 avril 1944, et le dernier convoi de déportation parti de Perrache, le 11 août 1944, composé de 650 personnes. À la demande des parties civiles, s'ajoutera ensuite un quatrième chef d'accusation, acte d'arrestation, torture et déportation de juifs ou de résistants pris isolément. Mais alors que la justice se prépare, une question se pose, celle de la mémoire et des archives. Le garde des Sceaux de l'époque, Robert Badinter, s'en inquiète.
Quel dommage que l'on n'ait pas la voix de Léon Blum au procès Pétain. Quel dommage qu'on n'entende pas Laval, au début de son procès, se défendant lui-même. Quel dommage qu'on n'ait pas conservé l'enregistrement du colonel Argout au moment du procès des barricades. Enfin, les archives judiciaires sont vides parce que l'on ne s'est pas assez soucié de voir comment l'on pouvait réussir à conserver des documents sonores ou visuels suffisants.
En 1985, une nouvelle loi autorise donc l'entrée des caméras dans le prétoire, mais dans des conditions d'enregistrement strictes, sans diffusion possible avant 20 ans minimum, et seulement pour les procès à valeur historique. Pour la première fois, ce 11 mai 1987, 5 d'entre elles seront présentes pour filmer l'intégralité des débats. Le jour de l'ouverture du procès arrive enfin. À l'extérieur, la communauté juive de Lyon témoigne.
Je n'ai pas l'impression qu'il a le moindre remords, le moindre repentir vis-à-vis des crimes qu'il a pu commettre.
On ne peut pas s'empêcher d'être content, satisfait que cet homme-là se trouve aujourd'hui dans la box d'accusés à Lyon.
À l'intérieur, la salle d'assises, exceptionnellement réinstallée dans la salle des pas perdus, accueille les protagonistes. Klaus Barbie en costume sombre, avec trois défenseurs dont Jacques Vergès, le président André Sardini, le procureur général Pierre Truche, les parties civiles et leurs 39 avocats. À 13h04, le coup d'envoi est donné. C'est le début d'un procès historique et éprouvant. Il durera jusqu'au 4 juillet 1987, date à laquelle Klaus Barbie est reconnu coupable de 17 crimes contre l'humanité, pour lesquels il est condamné à la réclusion criminelle à perpétuité.
Débarqué Paris, d'un monde où l'on te rêve, j'ai fui les périls, les déserts où l'on crève. Tu m'as ouvert tes bras, toi ma Vénus de Milo, tu brilles. On n'écrit pas de poèmes pour une ville qui en est un. Paris ma belle, je t'aime quand la lumière s'éteint. On n'écrit pas de poèmes pour une ville.
Gaël Faye et sa chanson Paris Métech. On ouvre une page consacrée au sport, ou plutôt au parcours de la flamme olympique. Moins de trois mois avant les Jeux de Paris 2024, ils débutent, on le rappelle, le 26 juillet prochain. La flamme, elle, est arrivée à Marseille après avoir été allumée en Grèce, le berceau des Jeux de l'Antiquité. Elle va maintenant sillonner toute la France métropolitaine et l'outre-mer. On vous propose donc la première partie de ce reportage Radio France Internationale, signé Christophe Diremzian.
Olympie, 15 000 habitants avec ses alentours en temps ordinaire, sanctuaire vieux de 2600 ans, redevient un lieu d'espoir de paix le temps d'une cérémonie, comme en préambule à chaque jeu d'été ou d'hiver, ou presque. Privé de sa solennité, confiné dans un huis clos en 2021 avant Tokyo à cause de la crise sanitaire, le rituel de l'allumage de la flamme a retrouvé toute sa magie sur sa terre d'origine devant des milliers de spectateurs anonymes ou privilégiés comme Tony Estanguet, le président du comité d'organisation de Paris 2024, conscient des valeurs que cette flamme incarne.
La flamme, elle représente d'abord le partage et la transmission. Je trouve que c'est vraiment ce symbole des relayeurs qui se transmettent la flamme. Ça crée un lien, on se sent garant un petit peu et responsable de ce symbole des Jeux, effectivement de cette universalité et ce symbole de paix, parce que c'est aussi ce qui nous ramène au à la Grèce antique et donc à la création des jeux dans une volonté de pacifier les peuples.
Allumer et transmettre une flamme n'est pourtant pas un héritage ancestral. La mise en scène ne date que de 1936 à l'occasion des Jeux de Berlin, instrumentalisée par le régime nazi pour servir sa cause. Mais la symbolique du feu, elle, trouve bien sa source dans cette Olympie antique où festivités sportives et religieuses étaient intimement liées. Dimitria Papadopoulou, guide conférencière à Athènes.
Il y avait un feu, le feu sacré, qui brûlait à l'intérieur d'un bâtiment, le Prytané, au site archéologique d'Olympie, qui montrait l'existence permanente de l'élément divin dans le site archéologique d'Olympie. Qui veut dire que les Jeux Olympiques anciens, c'est un événement qui est organisé dans le contexte de la religion. Donc le feu montre la présence constante du Dieu qui surveillait, qui protégeait d'une certaine façon les compétitions athlétiques. Les athlètes qui participent sont sous la protection du dieu Zeus qui les incite, qui leur donne de la force, de l'inspiration pour participer aux compétitions athlétiques.
Apollona, Θεέ του ήλιου και της ιδέας του φωτός, έστειλες τις ακτίνες σου και άναψες την ιερή δάδα για τη φιλόξενη πόλη.
Par la faute d'un ciel trop voilé, aucun rayon de soleil ne se réfléchira cette année sur le miroir parabolique dans lequel doit naître la flamme. C'est grâce à une urne allumée la veille que la torche entame son périple. Portée en premier, comme de coutume, par un grec, Stéphanos Douskos, champion olympique d'aviron à Tokyo. Privilège est ensuite accordé à une Française, Laure Manaudou, médaillée d'or du 400 mètres nage libre il y a tout juste 20 ans à Athènes et totalement saisie par ce moment.
J'ai l'impression de m'être arrêtée un peu dans ma tête quand je courais. Et de me dire ralentis déjà parce que tu vas vite et prends conscience de la chance que tu as d'être ici et d'avoir le symbole de la paix mondiale en ce jour dans les mains et toutes les valeurs du sport et de l'humanité aussi. Donc c'était à un moment donné, ouais, j'ai eu l'impression de m'arrêter dans ma tête et de profiter.
Ces quelques centaines de mètres, torche dans une main et rameau d'olivier dans l'autre, Tony Estanguet, triple champion olympique de canoë-kayak entre 2000 et 2012, ne les a vécus qu'après sa carrière, à Rio en 2016. Il en garde un grand souvenir, comme ceux personnels qu'il s'est forgé il y a plus de 20 ans.
Mon premier souvenir le plus fort, c'est probablement Mohamed Ali à Atlanta à la télévision. Mon deuxième souvenir aussi, c'est vraiment en vrai dans le stade à Sydney, avec Cathy Freeman qui allume cette flamme. C'était tellement beau, tellement fort, tellement puissant. Je me souviens, c'était ma première cérémonie d'ouverture en tant qu'athlète. Et trois jours après, j'ai été champion olympique. Enfin, c'était vraiment, ça m'a boosté cette cérémonie et Cathy Freeman qui allume cette vasque. Donc oui, j'ai quand même des images qui sont fortes, souvent liées aux cérémonies d'ouverture. On se souvient aussi de Barcelone et de cet archer qui avait allumé la vasque. J'ai adoré cette expérience à Rio. C'est vrai que c'était assez magique en tant qu'ancien athlète. J'ai un rapport très particulier avec les Jeux. Ça a changé ma vie. Donc le jour où on m'a proposé de porter la flamme, j'ai tout de suite dit oui. Quand j'étais athlète, la question s'est jamais posée. Et puis j'avais l'impression que c'était pas mon rôle en fait. C'était trop tôt. J'étais encore dans l'action. Donc j'ai pris ça aussi comme une reconnaissance de ma carrière. Et c'est formidable.
Sitôt quittée Olympie, la flamme a commencé à parcourir la Grèce du nord au sud pendant 11 jours. Alors qu'elle s'approchait d'Athènes, un autre voyage se préparait dans le port du Pirée à Athènes.
Vas-y en première.
Vas-y.
Je suis la première fille quand même.
À quai, un majestueux trois-mâts nantais, le Belém. Construit en 1896, l'année des premiers Jeux modernes, ce bateau de 58 mètres et de 800 tonnes a déjà connu de nombreuses vies. Cargo de transport de cacao, voilier de luxe sous pavillon anglais ou encore navire-école italien. Propriété depuis 1979 de la fondation d'un grand réseau bancaire français, il poursuit aujourd'hui sa vocation d'apprentissage de la vie de marin à des civils. Ceux qui s'apprêtent à le rejoindre ce jour-là ont entre 10 et 25 ans. 16 jeunes au parcours personnel sans tâche ou cabossé qui se cherchent tous une voie. La fondation les a sélectionnés parmi plus de 300 candidats après des stages d'insertion à bord pour une expérience unique, accompagner la flamme olympique jusqu'à Marseille et participer activement aux manœuvres de navigation.
Yassine Nassa, 19 ans, Marseille.
Moi c'est Wari Belkouane, 20 ans et Marseille aussi.
Yacoubi Zabi, je viens d'Afghanistan.
Je suis 25 ans, je viens de la région Charente-Maritime.
Je m'appelle Éléonore Budac, j'ai 20 ans et je viens de la Chapelle-sur-Erdre, donc en banlieue nantaise, Pays de Loire.
Yacine, étudiant en comptabilité, et Wari, surveillant de collège et animateur dans un centre social, ont le même naturel et la même excitation devant la tâche qui les attend.
C'est la plus grosse responsabilité que j'ai eue de toute ma vie parce que je représente les jeunes et même tous les jeunes à l'échelle internationale, toute la Terre. Pour les Jeux Olympiques, c'est énorme, c'est the responsabilité.
Et surtout quand on sait qu'est-ce que ça représente les JO, enfin, surtout la flamme des Jeux Olympiques, c'est un symbole de paix dans le monde et tout. Et tout ce qu'elle représente au niveau mondial, c'est ça qui est grandiose.
Comme Yacine, Zabi, qui a fui l'Afghanistan en 2015 après le meurtre de son père par les talibans, se dessine déjà un avenir professionnel dans le milieu marin.
Les stages avec le bateau Belém, ça me donnait des idées. Déjà, cette grande idée d'être intéressé pour le bateau, qui travaillait dans l'électricité des bateaux. Parce qu'avant de ça, je n'avais aucune idée qu'est-ce que je viens de faire comme un projet professionnel. J'étais un peu perdu dans mon cerveau pour choisir mon projet. Mais le bateau Belém qui me donnait envie de faire travailler dans le bateau.
Éléonore, elle, veut montrer une autre image des jeunes à travers cette aventure où la discipline, l'effort et la solidarité doivent aussi être mis à bord.
L'humain, c'est vraiment, la majorité du travail, parce que si on n'arrive pas à être solidaire, si on n'arrive pas à créer une communion entre nous, si on n'arrive pas à se comprendre et à s'entraider, ça ne fonctionnera pas. Sur le Belém, on ne peut pas se dire je suis fatigué ou je suis énervé, alors je pars. C'est pas possible. Si on ne s'y met pas tous, le bateau n'avance pas et on ne rentre pas là où on doit aller, quoi. Donc c'est des valeurs humaines qu'on acquiert et c'est toute une petite société qui se crée sur le Belém finalement. Et donc c'est vrai que c'est toute une organisation et c'est hyper important de s'écouter. Et enfin, l'humain, c'est hyper important.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Il fait beau sous la pluie.
Le super Mojo et Pat Kalla forment un duo pour interpréter « Il fait beau sous la pluie ». Europa Voice, à présent un épisode spécial où Christophe Mallet et Nathanaël Bloch s'entretiennent avec Noé Debré, le créateur de la série Parlement. Première partie d'Europa Voice, c'est parti.
Europa Voice, un épisode très spécial aujourd'hui, spécial parce qu'on a un invité spécial, on va parler de télévision également, mais on a toujours bien entendu Nathanaël Bloch avec nous. Salut Nathanaël.
Salut Christophe.
Alors on a un invité spécial, vous nous l'avez amené, Noé Debré, bonjour, bienvenue dans les bureaux d'SBS pour Europa Voice.
Bonjour, merci de me recevoir.
Noé Debré, vous êtes le créateur d'une série qu'on peut connaître si on s'intéresse un petit peu aux médias en France, on espère qu'elle arrivera d'ailleurs sur SBS On Demand, c'est Parlement. Parlez-nous un petit peu de la genèse de cette série. Juste un synopsis, on est dans l'ascenseur. Vous avez deux étages pour me raconter ce que c'est Parlement.
Ah bah, en deux mots, c'est Parlement, c'est une comédie qui se passe au Parlement européen, à Bruxelles et à Strasbourg. Et on suit les pérégrinations de Samy, qui démarre en première saison assistant parlementaire et qui ne comprend pas grand-chose à la politique européenne et va devoir se faire sa place dans ce monde étrange.
Moi, j'ai une question, Noé, à te poser. On l'a vu là pour la saison 4, il y a des petits clips humoristiques fait par les personnages principaux de Parlement pour inciter à voter, pour inciter à s'inscrire sur les listes électorales. Donc il y a un côté maintenant politique, il y a un message politique du projet. Quand la série, elle a été créée, est-ce que c'était simplement un bon objet fictionnel ou tu avais déjà derrière la tête un message politique à faire passer ?
Je voulais sauver l'Europe.
Ouais, bah c'est bien parti.
Et c'est réussi d'ailleurs.
Bravo.
Non, mais pas vraiment. En fait, le problème... Je pense que si on part avec l'idée qu'on va faire une série à message, globalement, ça fera pas une très bonne série. Moi, le Parlement européen, je trouvais d'abord que c'était un super décor de fiction, une arène qui m'intriguait. J'ai grandi à Strasbourg, comme tu le sais, pas loin du Parlement européen que je voyais un peu tous les jours. Et en fait, j'étais curieux de savoir ce qui se passait dedans. Et puis j'avais l'intuition qu'il s'y passait des choses qui pouvaient constituer une bonne comédie. Et c'est de là que ça vient. Et ensuite, cette histoire de petits clips pour inciter les gens à aller voter, dans notre tête, pour moi, c'est pas politique, c'est civique. Ça veut dire, on n'incite pas les gens à aller voter pour un candidat en particulier. Ce qu'on dit, c'est aller voter. Et c'est l'initiative de la productrice de la série qui s'appelle Fabienne Servan-Schreiber, qui est très attachée à ces questions-là, puisque c'était son mari qui est décédé, était député européen. Mm-hmm. Et donc, c'est aussi quelque chose qu'elle porte en sa mémoire, je crois.
Et si on parle de la série en elle-même, donc là, il y aura une saison 4, a priori. C'est ce qu'on va savoir. La saison 3 a bien marché. Il y a vraiment eu une évolution dans la série entre saison 1, 2 et 3. Est-ce que c'est aussi, ça relate le fait que vous avez aussi progressé dans vous en tant qu'écrivain? Vous avez une carrière avant. Et cette série, elle est quand même très importante pour vous dans la carrière. Le rôle de Samy aussi, c'est aussi, il est arrivé, il était totalement ignorant. Donc, en fait, il emmène le téléspectateur dans une espèce de nébuleuse qu'on connaît, hein, les parlements. Enfin, le Parlement européen divisé en deux endroits, mais on apprend aussi beaucoup de choses là-dessus. Est-ce que vous aussi, vous avez progressé en tant qu'écrivain dans cette série, comme Samy progresse lui autour de ce Parlement européen?
Oui, dans le rapport avec moi en tant que créateur de la série, etc. J'en ai pas fait l'analyse. Mm-hmm.
On peut commencer maintenant. Si vous...
En revanche, ce qui est sûr, c'est que il y a une tentation en série, je sais pas si vous avez déjà remarqué, mais en tout cas les séries comiques, c'est souvent le cas. En fait, quand on a fini la première saison et que j'ai appris qu'il y aurait une deuxième saison, ce qui était pas loin d'être évident, j'ai regardé plein de deuxième saisons de séries et je me suis rendu compte qu'en fait la plupart suivaient simplement le canevas de la saison 1, c'est-à-dire qu'en gros ils nous resservent à peu près les mêmes épisodes en saison 2 qu'en saison 1, puis voilà, vu qu'un an s'est passé, les gens ont un peu oublié, et puis donc voilà, on recommence la même chose. Et nous, on s'est tout de suite dit avec mes co-auteurs qu'on voulait pas faire ça, qu'on voulait essayer de faire progresser la série, et qu'en fait, un truc qui nous faisait très peur au départ en faisant la série, et c'est normal, c'est qu'on avait peur que juste que les gens trouvent ça incompréhensible et chiant, en fait, parce que c'est de la politique européenne. Et donc, on était très préoccupés par ça, et donc on a vraiment travaillé sur la première saison pour mettre beaucoup de blagues, beaucoup de comédies, pour essayer d'amener de la pédagogie, pour qu'on comprenne les situations quand même si on comprend pas tout, etc. Et arrivé en fin de première saison, quand je l'ai vu la saison, je me suis dit, en fait, les scènes qui parlent vraiment de politique, qui vont vraiment dans le sujet, quelque part sont les meilleures. Et moi, sont celles qui m'intéressaient le plus. Je les trouvais très réussies. Je trouvais que les réalisateurs, la réalisatrice avaient très bien travaillé. Et donc, ça nous a décomplexés. On s'est dit, non, mais allons-y, quoi. Rentrons. Donc, première saison, ça raconte comment est-ce que Samy essaye de faire passer voter un amendement. La deuxième saison, on commence à parler des négociations avec la commission et le conseil. Donc, ça commence à devenir quand même encore un peu plus nébuleux, mais aussi plus marrant parce que plus original, je pense, parce que c'est vraiment des singularités de cette institution-là. Puis voilà, troisième saison, on pousse la porte de la commission. Et dans la quatrième saison qu'on vient de finir de tourner, je vous le livre, on va au Conseil européen, en l'occurrence au Conseil de l'Union européenne, c'est-à-dire au sommet des chefs d'État. Mmh. Et donc on a aimé ça, on a aimé élargir l'horizon de la série.
Sur ce Conseil européen, Noé, sur ce sommet des chefs d'État, donc déjà on change de cadre, hein, on passe du Parlement au sommet, au Conseil. Dans une interview, dans un dossier presse, on parle de l'Olympe. Samy, qui a commencé comme stagiaire au Parlement européen, a atteint l'Olympe. Quand on a atteint l'Olympe, est-ce que ça signe la fin d'une saga? Alors je sais qu'on est seulement dans le tournage, mais ça veut dire, est-ce qu'il y a des possibilités que la série évolue, qu'il y ait une saison 5 ou ça y est, on...
Non, on a vraiment pensé cette quatrième saison comme la dernière. En vérité, déjà la troisième, on avait... En fait, en finissant la troisième saison, on avait l'impression que ça y est, on avait fait le tour de Parlement, du Parlement. Et en fait, pendant qu'on était en train de la tourner, on a eu un moment de nostalgie parce que c'est un... Je dis « on », c'est l'équipe des réalisateurs, les scénaristes, les acteurs, parce que le collectif est très fort, en fait, sur Parlement. Et c'est une série qu'on a énormément de plaisir à faire pour plein de raisons. Parce qu'on tourne dans les décors, donc c'est un terrain de jeu extraordinaire, quoi. On va vraiment, je pense qu'on est la seule série au monde qui se tourne vraiment dans le décor dans lequel la série est censée... Enfin, politique, j'entends. Et donc, il y a ça... Et puis il y a même la singularité du sujet qui est tellement on est les seuls à raconter cette histoire et ça c'est grisant. Et donc on a eu un moment de nostalgie anticipée en se disant merde, en fait c'est la dernière saison, c'est triste. On se disait on va jamais retrouver ça et on s'est dit allez, on pitch une quatrième saison. Sauf que pour les mêmes raisons que ce que je disais entre la première et la deuxième saison, c'est-à-dire qu'on voulait pas remettre le couvert, et donc on s'est dit ben allons au conseil parce que c'est étonnant et parce qu'on aura aussi un sentiment de ça y est on a atteint le soleil quoi. Mm-hmm. On peut pas monter voilà, on peut pas aller beaucoup plus haut que ça en Europe.
Est-ce que aussi c'était compliqué de sortir des clichés de qu'on peut avoir d'un Parlement européen, de penser, je disais tout à l'heure, une nébuleuse, quelque chose qui est compliqué, qui fonctionne mal, différents pays, différentes langues, différents égos, etc. Ou est-ce qu'en fait au final ça s'est quand même bien déroulé comme le Parlement européen se déroule bien au final tous les jours, au jour le jour? Mmh. Il y a certains clichés dedans. Je me souviens du moment où, par exemple, savoir qui va poser la première question, c'est très important dans un meeting. On est OK de poser les questions, mais qui va être la première? Il y a cette notion d'ego et l'espagnol devant le serbe. Enfin, voilà. Est-ce que ça a été compliqué de pas tomber dans ces clichés trop facilement?
En fait, on a décidé, parce que y a deux façons d'aborder les clichés. Il y a en faire usage, mm-hmm. Décider d'aller contre. Mais en général, quand on essaie d'aller contre le cliché, on est aussi dans le cliché. Parce qu'en vrai, essayer de contourner un cliché, c'est cliché. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Et donc, nous, ce qu'on a décidé de faire, c'est qu'on a dit on va embrasser les clichés, on va essayer de les résoudre. Ça veut dire on commence avec un député en première saison qui est vraiment tout ce qu'on imagine. D'un parlementaire européen, il est paumé, il est globalement incompétent, il est paresseux, enfin, c'est terrible. Mais en réalité, on commence là et on l'amène ailleurs, ou en tout cas, on essaye de résoudre le personnage, de l'élucider d'une façon qui soit surprenante, et surtout, nous, ce qui nous a beaucoup importé, c'est d'essayer d'être vrai. Mmh. Pas dans le sens réaliste, mais vrai, dans le sens où les gens qui connaissent reconnaissent quelque chose, et les gens qui connaissent pas aussi, quelque part, reconnaissent quelque chose. Et je pense que, et ça a été un des grands, disons, ce qui a permis de faire cette série et de la faire telle qu'elle existe, c'est que je l'ai coécrite en partie avec deux auteurs qui sont dans les institutions. Maxime Caligaro, Pierre Dorac. Maxime Caligaro qui était assistant parlementaire, qui maintenant est conseiller politique, et Pierre Dorac qui était fonctionnaire au Parlement, maintenant à la Commission. Et donc Pierre et Maxime ont vraiment un regard de l'intérieur sur ces lieux, un regard avec, et voilà. Et l'autre chose, la question qui revient souvent et que j'ai l'impression est le corollaire de celle-ci, c'est vous montrez par exemple un député paresseux, est-ce que du coup la série est eurosceptique?
Il en prend un peu pour son grade. Hein.
Ouais, et en même temps, moi j'ai l'impression qu'il faut écrire par-delà ça. Mm-hmm. Ça veut dire qu'on a un personnage comme dans toute série, ce serait une série qui se passerait à l'hôpital, qui se passerait à l'école, en fait on aurait ce perso parce que c'est un archétype et qui nous intéresse, qu'il est drôle, etc. Et puis en même temps, on lui trouve sa rédemption. C'est-à-dire qu'il va être utile à un mm-hmm. moment, il sera heureux d'être utile.
Un homme extraordinaire, Les Innocents sur SBS French, qui fait partie de notre sélection musicale. Après la première partie d'Europa Voice, on vous propose une autre première partie, celle de nos archives. On remonte en 1999, messieurs, dames, lorsque le producteur Daniel Toscan Duplantier s'entretenait avec Daniel Kampf sur l'industrie du cinéma et sur ses projets de l'époque. Archives.
Chers auditeurs, avant de plonger dans notre podcast d'archives, permettez-nous de vous offrir un brin de contexte. Ces enregistrements sont des témoins du passé, des fragments historiques précieux. Nous vous invitons à écouter avec curiosité et respect en explorant les voix et les sons qui ont façonné notre histoire, tout en acceptant que les propos sont eux aussi des moments d'archives et peuvent, dans certains cas très rares, porter à confusion aujourd'hui. Merci de votre compréhension et bon voyage dans nos archives.
J'ai le plaisir de parler à Daniel Toscan Duplantier, qui n'est plus à présenter, car je crois que nos auditeurs le connaissent de différentes interventions qu'il a effectuées en Australie. Daniel Toscan Duplantier, bienvenue sur les ondes de Radio SBS. Bonsoir. Merci. Merci de vous adapter à notre heure. Daniel Toscan Duplantier, ce qui est intéressant dans vu que vous êtes sur une toile de fond où plusieurs sortes de cinéma s'affrontent, et je ne parle pas des studios qui, eux, ont leur recette à eux, mais par exemple, on a beaucoup parlé du Dogma, on a beaucoup parlé de films surréalistes d'Amérique latine. Là, les films français sont revenus, c'est presque une anti-nouvelle vague, ils sont revenus à une perfection. À une perfection scénique, d'éclairage, de cadrage, de mouvement de caméra. C'est pas la caméra stylo, c'est vraiment la caméra qui disparaît tellement on est dans la scène.
Une perfection qui est très, très à l'opposé de la tendance Dogma.
Absolument, bon, c'est à son contraire.
Ce qui n'enlève rien à la force de Dogma, mais vous savez, dans le Dogma, je crois que c'est plus une opération publicitaire qu'une opération esthétique, parce que je suis laissé dire que le prochain film de Lars von Trier, qui sera probablement à Cannes, n'est pas du tout Dogma, hein, avec à commencer Catherine Deneuve,
et quelques autres
extrêmement faits.
Oui, et donc, d'ailleurs, ses premiers ne l'étaient pas non plus. On ne peut pas dire, par exemple, que Zentropa était Dogma, parce que c'était fait, c'était tellement fabriqué, Zentropa.
Oui, non, mais c'est un très grand cinéaste, Lars von Trier, mais je crois qu'il est capable de faire tout et son contraire, et que son unité est dans sa pensée, et que il a eu l'habileté de monter cette opération, dont je pense qu'il ne faut pas non plus tirer des conclusions définitives, parce qu'elle s'userait vite.
Elle s'userait vite, oui, mais ce que je voulais dire par là, c'est qu'il y a un bouillonnement d'idées et de concepts du cinéma indépendant, mais ce que l'on remarque, c'est qu'il y a eu presque une sorte de réaction, comme chaque mouvement a sa réaction. On revient à ce cinéma des... la nouvelle vague était plutôt démontrée d'une certaine un esprit rebelle, mais aussi un esprit de moqueur, disons, vis-à-vis du cinéma de papa, qui était un cinéma très perfectionné, très... Et on revient à ce cinéma, à ce très beau cinéma.
Oui, c'est vrai. C'est vrai que... sans entrer dans un débat qui serait vite dangereux.
Oui, glissant.
À l'idéologie de la nouvelle vague qui est dans l'air actuellement.
Ah bon?
Oui, ça avait commencé, au fond, le premier qui a posé un peu le problème de la remise en cause du parti des dogmes de la nouvelle vague, c'était de cette façon Bertrand Tavernier, hein.
Oui.
Est revenu à une tradition d'un cinéma français bien fait, etc. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui... comme vous savez, c'est assez amusant, il y a eu une espèce d'agitation en France assez importante sur les rapports avec les critiques.
Oui, un débat dans la querelle des anciens et des modernes.
Oui, c'est ça. Alors il y a eu, on peut dire que la nouvelle vague avait été caractérisée par une espèce de confusion d'ailleurs, qui faisait que critiques et cinéastes, c'était souvent les mêmes. Avait créé une espèce de communauté de complicité très constructive qui a permis la révélation des Truffaut, Godard, Romère, Chabrol et des autres. Mais que ça fait presque 40 ans, hein. Ça a commencé dans les années 60. Aujourd'hui, il y a visiblement une remise en cause, puisque c'est justement Tavernier, Lecomte qui ont ouvert ce conflit, qui est moins un conflit de désaccord que la fin d'une complicité. Chacun fait son métier, les critiques sont critiques, les cinéastes sont cinéastes, les gens jugent les autres et ne sont pas censés trouver des points de convergence qui n'existent pas. C'est là-dessus que l'ambiance a beaucoup changé en France et on est dans une phase nouvelle.
Et une phase d'ouverture aussi, et c'est probablement... Est-ce que vous pensez que les partenariats avec les différents, entre par exemple réalisateurs étrangers et puis des producteurs français ou européens, a ouvert certaines choses, a forcé une certaine ouverture vis-à-vis de cette querelle des critiques?
Oui, je pense que au-delà même de l'aspect juridique des coproductions ou économique des cofinancements, il y a une grande curiosité quand même à Paris, alors là qui a été très très favorisée par la nouvelle vague, qui est celle de se passionner à la fois sous les formes professionnelles et critiques pour les cinémas étrangers et de ne pas tout ramener au seul affrontement franco-américain qui est un peu desséchant,
hein. Oui.
Y compris que la notion de cinéma américain recoupe toutes sortes de cinémas, de talents et qu'un cinéaste indépendant de New York est loin
d'une machine hollywoodienne, et même non seulement loin, mais souvent à l'opposé. Donc c'est une ambiance parisienne très positive, hein, et qui fait que, de toute façon, si Hollywood est la capitale de la production, Paris est la capitale de la cinéphilie, hein, qui fait qu'il y a cette curiosité jamais démentie vers plus de cinéma sous toutes ses formes. Hein.
C'est le septième art, c'est le seul...
La diversité, c'est vraiment le mot-clé de tout ça, je pense.
Mais vous savez ce qui est intéressant, il n'y a pas d'équivalent linguistique pour septième art en anglais. Et ça, je crois que ça démontre vraiment une attitude dès le début du cinéma, une attitude qui était française, une attitude qui était un cinéma d'auteur avec toutes ses traditions, etc. Mais qui était aussi celle qui était partagée par des Européens, par les indépendants américains, par les Australiens lorsque leur cinéma s'est remis aussi. C'est que c'est un septième art. Et en anglais, quand je dois traduire septième art, je ne sais pas comment le traduire. Il faut que je fasse une phrase pour traduire septième art.
Ben oui, parce que c'est une vision industrielle, hein,
oui.
Il faut dire.
Oui.
Clairement, le mot entertainment ne recoupe pas tout à fait tout ce que peut dire septième art. Hein.
Non, je ne crois pas. Le cinéma français se porte bien.
Écoutez, si vous étiez en France, je vous dirais non, parce que le cinéma français pleure toujours beaucoup sur lui-même.
Oui.
Avec un peu de complaisance. Mais oui, la réponse est oui. Voilà.
SBS French. Mardi, jeudi, samedi et dimanche, à 13h ou à tout moment, en ligne.
Des roses de cristal, Chris et Sam Mollis. Mon amour sans rival, dans le mal et le bien.
On ne présente plus à Haute-Sagazan à Que la vie est belle. On termine cette émission avec une interview beaucoup plus d'époque, non pas 1999, mais 2024. Il y a 2 semaines environ, un couple de Français s'est lancé dans un pari fou, un défi fou, celui de traverser l'océan Indien à la rame. Ça devrait leur prendre 3 mois environ, un petit peu moins de 100 jours. Interview avec leur amie Nathalie qui nous parle de ce projet très ambitieux, nous donne des nouvelles du jeune couple et nous parle de leur projet futur.
Vous êtes passionné de films ? SBS On Demand a des centaines de films disponibles, visionnables à n'importe quel moment. Pour le meilleur des films dramatiques, des documentaires, des films d'horreur, des comédies et des films d'amour, allez sur sbs.com.au/on-demand.
On reçoit sur SBS Audio aujourd'hui Nathalie Verlinden.
Bonjour.
Vous êtes l'amie de Sophie et Fanch, un couple de Français de la Réunion qui est parti faire la traversée entre le Western Australia, donc l'ouest de l'Australie, et l'île de la Réunion, d'où ils sont originaires, on l'a dit. C'est un voyage de 6000 km au total. C'est un voyage qu'ils ne font pas en avion, c'est un voyage qu'ils font en radeau, en petit bateau. Vous avez aidé à coordonner ce voyage, mais vous êtes avant tout une amie très proche du couple. Ils sont partis le vendredi 26 avril de Carnarvon, au nord de Perth. Et vous êtes depuis retourné sur l'île de la Réunion pour les attendre. Parlez-nous de ce voyage complètement fou, la traversée de l'océan Indien à la rame.
Et oui, c'est complètement dingue. En fait, c'est deux illuminés. Et ils se sont rencontrés il y a 9 ans et Fanch venait de faire de l'île de la Réunion à Madagascar, à la rame. Et Sophie, elle avait fait l'île Maurice à la Réunion en kitesurf. D'une traite. Donc,
qui est déjà très impressionnant.
Voilà, ils entendent chacun parler l'un de l'autre et les amis en commun leur disent « Ah, il faut absolument que vous vous rencontriez juste pour partager vos aventures ». Et c'est le coup foudre quand ils se rendent compte. Et Fanch dit à Sophie « Mon prochain rêve, c'est de faire de l'Australie à la Réunion à la rame. Est-ce que ça te dirait de faire ça avec moi ?» Et elle a dit oui. Et donc, Fanch, il s'est dit, c'est que c'est la femme de ma vie si elle dit oui à des trucs pareils. Et voilà, donc c'est un projet qu'ils ont eu ensemble depuis un moment. Ça fait 2 ans qu'ils ont commencé à le monter pour de bon. Et ça a été extrêmement compliqué logistiquement pour faire venir le bateau à rames jusqu'en Australie, pour toutes les démarches administratives, etc. La gestion de la nourriture, tout ça. Donc le départ le 26 avril, c'était surtout un immense soulagement de tout ça, toute cette organisation est enfin terminée et on peut commencer le vrai.
Vous en avez un petit peu parlé, la préparation, donc vous avez dit ça a pris plus de 2 ans, il faut faire venir le bateau à rames, il faut prendre en compte toute la nourriture. Un challenge complètement fou comme ça, est-ce que la clé, c'est la préparation physique? On imagine qu'ils ont fait énormément de sport et de rameurs pour se préparer à ce voyage qui va leur prendre environ 100 jours, donc un peu plus de 3 mois pour faire ces 6000 kilomètres. Ou au contraire, est-ce que la clé, c'est une organisation super millimétrée avec exactement le bon nombre de repas sur le bateau, le téléphone satellite? Comment on s'assure? Ils n'ont pas de plan B. C'est, si ça se passe mal, ils n'ont pas d'autre choix que, quoi qu'il arrive, rejoindre l'île de la Réunion à la rame. Donc, c'est quoi le secret d'un pari aussi fou pour qu'ils réussissent?
Alors, c'est rigolo parce que je pense que le secret, ce n'est leur secret à eux, ce n'est ni une organisation super minutieuse, parce que aucun des deux n'est comme ça, et ce n'est ni une énorme préparation physique, parce que je les ai vus et ils ont quand même réussi à prendre chacun 15 kilos avant de partir. Bon, quand même, en se disant que ils n'allaient pas manger grand-chose pendant 3 mois et qu'il fallait
c'était
avoir
des réserves.
Mais ils se sont pas non plus préparés comme des grands malades physiquement. Je dirais que Fanch est peut-être un petit peu plus précautionneux et minutieux au niveau de l'organisation pour s'assurer que tout va bien. Mais je crois que leur secret à eux, c'est surtout une équipe incroyable. Ils se complètent parfaitement bien. Quand il y en a un qui a un petit coup de mou, c'est l'autre qui va compenser et vice-versa. Ils fonctionnent très bien comme ça. Et surtout, ils ont un mental extraordinaire.
Est-ce que c'est juste un défi personnel pour eux de faire ça, ou est-ce que y a un but derrière ce voyage?
Ils adorent les challenges. Donc, il y a vraiment ce côté de prendre énormément de plaisir à se lancer un défi fou en couple. Ils partent avec une grande envie de partager ce qu'ils sont en train de faire pour inspirer surtout les enfants à croire aussi en des rêves fous et avoir envie de les réaliser. Donc, il y a beaucoup de classes d'école à La Réunion qui les suivent, qui chaque jour avec leur maîtresse vont poser le petit point sur la carte pour voir leur avancée. Et ils sont tous les deux passionnés du monde marin, ils font beaucoup de plongées sous-marines et donc ils ont aussi dans l'idée de pouvoir aider des scientifiques sur leur chemin. Ils vont répertorier tout ce qu'ils voient au niveau faune aquatique et déchets plastiques aussi. Donc ils aident plusieurs associations scientifiques à La Réunion en récoltant toutes ces données.
Comment il est financé ce défi fou, vous savez ?
Ça fait des années qu'ils mettent de l'argent de côté pour pouvoir financer tout ça. Ils ont cherché des sponsors pendant un bon moment. Donc, ils ont réussi à trouver plein de petits sponsors qui les ont aidés, par exemple, pour le matériel, pour des petits objets, pour des petites choses comme ça. Ils n'ont pas réussi à trouver de gros sponsors. Et ils ont fait une cagnotte. Mais majoritairement, c'est toutes leurs économies qui partent dans ce défi. Et donc, quand ils rentrent, ils vont devoir sacrément se mettre au travail.
On imagine que c'est ni leur premier ni leur dernier défi. Je voyais avant qu'ils avaient également fait le marathon des sables où on voit Fanch heureux mais totalement à bout. On imagine que 3 mois en mer sans pause et sans plan B, ils vont rentrer à bout aussi. Vous savez déjà ce qu'ils ont en tête pour la suite?
Des expériences qu'ils ont eues et des recherches qu'ils ont fait, beaucoup, beaucoup de gens qui traversent un océan à la rame ne le refont plus jamais. Je suis sûre qu'ils trouveront un sacré délire à faire encore après. Pour le moment, ils étaient trop dans l'instant pour penser à ce qu'ils feraient après.
Comment ça se passe, la vie à deux sur ce tout petit bateau? On sait que vous arrivez à avoir des nouvelles d'eux. Ils ont un téléphone satellite qui leur permet d'établir certaines communications. C'est quoi leur vie au quotidien durant ces 3 mois?
Eh ben, ils ont un rythme que moi je trouverais insupportable, surtout au niveau du sommeil. Ce qu'ils font, c'est que en fait, il faut pas que le bateau s'arrête trop longtemps. Donc, il faut quand même qu'il y ait un peu une rame perpétuelle, sinon le bateau, ça devient un bouchon qui juste va se déplacer au gré des courants et des vents et qui ira vraiment pas forcément dans la direction que ils souhaitent aller. Donc, ils peuvent pas se permettre d'arrêter de ramer trop longtemps. Donc là, ils ont un rythme où il y en a un qui se repose, l'autre rame 1 heure. Puis l'autre se repose et ils font 1 heure de repos, 1 heure de rame, 1 heure de repos, 1 heure de rame. Ils sont obligés de s'enfermer quand il y a une grosse mer, que c'est la nuit et que donc ils peuvent pas voir les déferlantes arriver et peut-être en prendre une et se renverser. Donc quand c'est trop dangereux comme ça, ils s'enferment dans la cabine. Et sinon, ils sont heureux de toutes les rencontres qu'ils font. Ils voient beaucoup d'oiseaux marins. Ils ont vu plusieurs animaux différents. Eux, ils disent que c'est le bonheur.
Une certaine définition du bonheur. Voilà. Le voyage suit son cours.
Exactement. Et à grande vitesse, je trouve.
Ils pourraient arriver plus tôt que prévu ?
Pour le moment, il se pourrait bien que oui. Ils avaient misé sur fin juillet, début août. Et je ne serais pas surprise qu'ils arrivent plus tôt que prévu.
Merci Nathalie.
À très bientôt.
Vous écoutez Le Français sur Radio SPS.
Sous la peau comme une enclume, parfois on me dévisage, on me salit le paysage, mais je m'assume comme toi, car je suis lune et soleil.
C'est bien sûr Zaz avec la chanson L'une ou l'autre. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivie. Je m'appelle Marianne Murat. Nous sommes samedi après-midi. J'espère que cette émission vous a plu. Vous pouvez la retrouver en intégralité ou en partie sur notre site internet sbs.com.au/french. Et pour ce qui est des dernières actualités, c'est le site de news de SBS, sbs.com.au/news. Votre prochain rendez-vous avec Le Français, c'est demain, même fréquence, même heure, ce sera avec moi. Et sinon, en semaine, vous avez toujours les émissions du mardi et du jeudi. Je vous souhaite de passer un excellent samedi après-midi et je vous retrouve demain.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.